BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Votre avenir financier prend le pouvoir chaque après-midi de 15h à 18h. On évoque tous vos placements au rythme des marchés. Bienvenue à tous d'ailleurs si vous nous rejoignez en direct. Le CAC 40 est en toute petite hausse, très ténue, timide, plus 0,14% aujourd'hui. L'optimisme des marchés qui va devoir franchir quelques haies, une course d'obstacles qui va peu à peu s'accroître avec les publications d'entreprises notamment. Elles vont s'accélérer très nettement aux États-Unis et elles vont pour de bon démarrer ici en Europe et sur le marché parisien. On sera dans un instant avec Étienne et Étienne Braque depuis la tour Euronext pour voir ce qu'il faut anticipé de ces publications qui vont jalonner la semaine. Trois groupes du CAC vont annoncer leurs résultats d'ici la fin de semaine. Pendant ce temps, il se passe toujours beaucoup de choses sur le marché des devises en l'occurrence. L'euro qui continue de monter face au dollar. On a franchi tout à l'heure la barre d'un dollar 0,9 avec des propos ce week-end d'un membre de la BCE qui expliquait, Glasnost, qui expliquait que la BCE relèverait ses taux encore de 50 points de base en février, encore de 50 points en mars et encore de 50 points à chacune des réunions suivante. Évidemment, ça donne un peu de force à l'euro face au dollar, puisque du côté de la Fed, on attend au contraire un ralentissement des hausses de taux. Pas de communication à attendre des membres de la Fed dans les prochains jours, puisqu'on entre dans la traditionnelle période de blackout avant la décision de politique monétaire qui sera attendue et délivrée la semaine prochaine. Du côté des actions, quels titres privilégiés pour vos portefeuilles? On va essayer de vous apporter un maximum de réponses. On vous fera découvrir aussi les performances de notre portefeuille BFM Responsable. Ce sera dans une petite vingtaine de minutes et vous allez voir que la semaine dernière, encore, le portefeuille BFM Responsable a fait mieux que le reste des marchés. Ça dure depuis le début de l'année. C'était aussi le cas l'an dernier et c'était aussi le cas l'année d'avant. Nos experts, nos trois co-gérants nous livrent leurs secrets chaque lundi à 16h20. Et tout à l'heure, c'est Alban Préaubert qui nous accompagnera pour Sycomore AM, l'un des trois co-gérants de ce portefeuille. On est à vos côtés. On joue dans votre camp encore pendant 2 heures. Et tout de suite, Faiza nous rejoint, Faiza Younzi, pour également parler de la réforme des retraites.
BFM Business, l'info éco.
La réforme des retraites au menu du Conseil des ministres ce matin. Pas question de renoncer au report de l'âge de départ à 64 ans pour le gouvernement. Le gouvernement qui ouvre la porte aux discussions concernant les carrières longues. Par ailleurs, l'exécutif se prépare à sanctionner les entreprises de plus de 300 salariés qui ne publieraient pas leur index senior, baromètre de l'emploi des plus de 55 ans au sein des établissements. L'autorité de sûreté nucléaire prête à revoir ses méthodes pour prolonger la durée de vie des réacteurs, comme le souhaite EDF, une piste qui doit être étudié avant fin 2024. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de l'organisation lors de ses vœux à la presse. L'inflation plombe le résultat de la RATP avec 100 millions d'euros de profits attendus pour 2022, trois fois moins que ce qui était prévu initialement. Quant à 2023, ça devrait être encore pire, prévient Jean Castex, le nouveau PDG de la RATP. Le résultat net qui était prévu au-delà de 330 millions d'euros ne va pas dépasser les 30 millions d'euros. Nouveau plan social dans la tech, cette fois-ci chez Spotify, qui va supprimer 6% de ses effectifs, soit environ 600 postes. Le numéro 1 mondial des plateformes audio souhaite ainsi mieux contrôler ses coûts alors que l'environnement économique est devenu plus difficile. En Allemagne, PayPal dans le viseur du gendarme de la concurrence. L'office anti-cartel vient d'ouvrir une procédure contre la fintech pour entrave aux droits de la concurrence dans ses contrats avec les commerçants en ligne. Également dans l'actualité, cet appel à la grève chez Ubisoft ce vendredi. Les deux principaux syndicats du jeu vidéo souhaitent mobiliser les salariés pour dénoncer les pratiques managériales de la direction, un appel qui fait suite aux dernières réunions avec le management. Autre revendication des syndicats, l'ouverture de négociations salariales pour obtenir des revalorisations au moins à hauteur de l'inflation. Et il y a eu moins de Français actifs en bourse en 2022. Environ 1,5 million de particuliers ont acheté ou vendu des actions l'an dernier, selon l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Un chiffre qui reste élevé, mais qui est moins important qu'en 2021. 2021 qui était une année record.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Faiza et les investisseurs en bourse. Évidemment, on rendez-vous chaque après-midi sur BFM Business. Dans BFM Bourse, on vous accompagne jusqu'à 18h. Et tous ceux qui s'intéressent tout simplement à leur avenir financier, puisqu'on déconfine les thématiques d'investissement chaque après-midi. On parle aussi bien sûr d'immobilier, d'assurance vie. On en parlait il y a quelques minutes. On parlera aussi des cryptos dans une bonne demi-heure avec nos experts du club BFM Crypto. Et tout de suite, la séance du jour en direct. Il est 16h06. Si vous nous suivez à la télévision ou sur l'appli BFM Business, vous apercevez John Plassard en direct dans le grand mur d'image de BFM Business. Bonjour John, on va vous rejoindre dans un instant pour évoquer les nombreuses publications attendues aux États-Unis cette semaine, les nouveaux licenciements, cette fois chez Spotify, un titre à suivre aujourd'hui sur le marché américain. Et puis Étienne aussi avec nous depuis la tour Euronext. Étienne, nos marchés européens entament cette nouvelle semaine assez timidement.
assez timidement, mais un CAC 40 qui arrive à se maintenir au-delà des 7000 points. C'est assez fragile. 7016 points, c'est une autre petite hausse de 0,3% dans le sillage des États-Unis qui sont bien orientés, puisque vous avez notamment un Nasdaq qui gagne 0,9%, un Dow Jones qui gagne 0,1%. Malgré la remontée du marché obligataire, vous avez des valeurs de croissance qui sont bien orientées, des investisseurs qui commencent à faire quelques paris avant cette semaine de publication. On en reparlera dans un instant. Ça va commencer à Paris, ça va également commencer du côté des États-Unis. Et puis, il faut noter également que les marchés en Chine sont fermés cette semaine. Du côté de la Chine, il n'y aura pas de cotation toute la semaine pour le nouvel an chinois. Et du côté d'Hong Kong, les cotations reprendront seulement jeudi. Donc, il faudra quand même continuer de scruter la situation, notamment d'un point de vue sanitaire, puisqu'on a pas mal d'analystes qui s'attendent à une dégradation de la situation avec les mouvements qu'il y aura du côté des prochains jours avec ce nouvel an chinois. En attendant, du côté des valeurs, vous avez Unibail Rodamco Wall Street qui est en hausse de plus de 4% malgré une remontée du marché obligataire. Eh bien, vous avez Exane BNP qui revient à surperformance sur ce titre. Donc, ça permet à Unibail d'être en tête de l'indice avec un gain de plus de 4%, 57,97 € pour la valeur. Et puis, à l'inverse, certaines valeurs défensives qui sous-performent, Air Liquide, Sanofi ou encore Danone affichent des replis compris entre 0,3 et 1%. Et puis surtout, ce qui est marquant aujourd'hui, c'est la hausse des cours du pétrole. Depuis plusieurs jours, on en parle. On est sur de nombreux hausses consécutives pour le baril de Brent qui culmine désormais au-delà des 88 $. C'est une hausse de 1,3% aujourd'hui avec des investisseurs qui anticipent la réouverture du marché chinois. Et puis, dans le même temps, à partir de début février, les mesures concernant l'interdiction avec les embargos russes, pétrole russe en Europe, dans l'Union européenne. Donc forcément, ça aura un impact sur les matières premières et donc le marché qui commence déjà à anticiper ces mesures.
Et puis les marchés à l'épreuve des publications d'entreprises aussi cette semaine. On va rentrer dans le dur aussi en Europe après Wall Street où ça va aussi accélérer. L'Europe, à son tour, entre dans le bal des publications du quatrième trimestre, Étienne.
Oui, si on se concentre uniquement sur le CAC 40, c'est trois publications cette semaine. Ça commencera en milieu de semaine, mercredi, avec notamment Alstom. Alors, c'est seulement la publication du chiffre d'affaires, car on est sur un exercice décalé. Donc, ça sera les ventes du troisième trimestre. Alors, comme toujours, on a des investisseurs qui vont pas regarder le carnet de commandes, car il est plein, mais ils vont surtout regarder les contrats Bombardier sur lesquels Alstom perd de l'argent, les contrats qui ont été hérités suite à ce mariage, et puis surtout les marges, les analyses qui vont commencer à interroger un petit peu le management, la direction par rapport aux marges dans un contexte d'inflation. Et puis surtout, journée très importante jeudi avec LVMH, un seul titre du CAC 40 qui est sur des plus hauts historiques avec une pondération de plus de 12% dans l'indice. Forcément, vendredi, puisque c'est jeudi soir la publication, vendredi sera une séance très importante pour l'ensemble du secteur du luxe. Et puis enfin, un mot de STM, ça sera jeudi également, quid des pénuries après notamment les mois qu'on a passés dans cette période post-pré-Covid, après-Covid, et donc pas mal de pénuries du côté du secteur des semi-conducteurs, et puis le marché également qui craint une récession dans les prochains mois, et secteur des semi-conducteurs qui a été pas mal ballotté en bourse, malgré une situation qui semble se normaliser du côté de ces pénuries. Et en attendant, on a un marché qui commence déjà à acheter ses titres, puisque quand vous regardez le palmarès du CAC 40, Alstom est la deuxième plus forte hausse, plus 2,9%, STM est la troisième plus forte hausse, avec un titre qui gagne 2,4% à 38,98 €.
Merci Étienne, à tout à l'heure, on vous retrouvera pour la clôture des marchés européens en attendant ces nombreuses publications attendues tout au long de la semaine. Le CAC 40 est en hausse de 0,1%. À noter cette hausse de l'euro, et vous en parliez aussi Étienne, à plus d'1,09 $ tout à l'heure, l'euro, d'autant que les derniers indicateurs macroéconomiques nous aident à croire qu'on éviterait peut-être une récession en zone euro. Les déclarations aussi des dirigeants allemands qui estiment de plus en plus que l'Allemagne évitera une récession. On aura demain un indicateur très intéressant à surveiller justement pour la zone euro, les PMI, les tout premiers PMI du mois de janvier. On se souvient qu'en décembre, les PMI avaient surpris à la hausse. On était remonté à 49. Peut-on espérer des PMI, pourquoi pas proche des 50, voire au-delà des 50 pour ce mois de janvier, dans la mesure où les craintes, notamment au niveau de pénuries énergétiques, ces craintes ne se sont pas matérialisées pour l'instant. Eh bien, on va aborder cette question avec nos experts avant demain, donc la publication de cet indicateur très intéressant. Et alors que la BCE reste extrêmement ferme, elle, dans son propos, dans ses discours sur de futures hausses de taux, Glasnost, membre de la BCE, qui a expliqué ce week-end qu'on aurait à nouveau 50 points de hausse de taux en février, 50 points aussi en mars, puis 50 points lors de chacune des réunions suivantes. Ça explique aussi le mouvement à la hausse de l'euro. Et on se demande d'ailleurs si la BCE pourrait se trouver d'autant plus décomplexée à continuer de relever ses taux que le risque de fragmentation en zone euro, lui, est en train de diminuer. Oui, on a de moins en moins de tensions autour de l'Italie, notamment. Le 10 ans italien, qui s'est pas mal détendu ces derniers temps, et l'écart de taux avec l'Allemagne est largement sous les 200 points, un signe de détente, un moindre risque de fragmentation qui pourrait aussi éventuellement encourager la BCE à aller un peu plus loin, pousser ses pions un peu plus dans le resserrement monétaire. On va aussi apporter un maximum de pistes et surtout poser cette question à nos experts tout au long de l'après-midi.
BFM Business, BFM Bourse, USA Today.
Et parmi nos experts du jour pour évoquer l'ensemble des enjeux de marché, John est avec nous. John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour John, on est ravis de vous retrouver. Alors que Wall Street, John, entame cette nouvelle semaine donc assez timidement, comme les marchés européens, le S&P 500 parfaitement stable en ce moment. Il faut dire que le calendrier est assez chargé cette semaine, surtout pour une fois, le calendrier des entreprises et notamment les publications qui vont encore un peu accélérer aux États-Unis, John.
Oui, bonjour Guillaume. On aura beaucoup de publications cette semaine. Alors évidemment, je ne vais pas toutes les citer ici, mais on peut notamment effectivement dire que demain, on aura Johnson & Johnson, on aura aussi General Electric, Texas Instruments et Microsoft. Microsoft, tout le monde attend ces chiffres, notamment sur le cloud. Mercredi, c'est IBM et Tesla qui seront à l'honneur, dont on parlera énormément. On a beaucoup parlé de Tesla ces dernières semaines ensemble, Guillaume. Jeudi, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va notamment avoir Intel, American Airlines et Mastercard. Et vendredi, on va avoir notamment, et c'est très important de le noter, Chevron, qui va lancer la période des résultats sur le secteur pétrolier qui a très, très bien progressé aux États-Unis notamment.
Effectivement, quelques-unes des principales publications attendues cette semaine. Pendant ce temps, dans la tech, on continue de licencier. Nouvelle annonce aujourd'hui, après celle d'Amazon, celle de Microsoft, celle également de Google. Cette fois, c'est Spotify qui nous annonce des licenciements. Les sociétés de la tech veulent manifestement à tout prix préserver leurs marges. Jusqu'où iront ces licenciements d'après vous, John?
Elles vont continuer, Guillaume. Vous savez, depuis le début de l'année, on estime qu'environ 50 000 personnes ont été licenciées dans ce secteur. L'année passée, c'est plus de 110 000 personnes qui ont été licenciées aux États-Unis dans le secteur de la technologie. Mais vous savez, si je prends juste deux entreprises, vous prenez Microsoft, qui a engagé plus de 40 000 personnes entre juin 2021 et juin 2022 et a annoncé 12 000 licenciements. Donc c'est, entre guillemets, seulement 30% de toutes les personnes qu'ils avaient engagées. Si vous prenez Alphabet, ils avaient engagé 36 000 personnes entre septembre 2021 et septembre 2022. Et ils ont annoncé ici 33% de licenciements de ce chiffre. Donc on voit que malgré tout et malgré ces annonces énormes qu'on entend, eh bien c'est assez peu par rapport à toutes les personnes qui avaient été engagées durant la crise du Covid. Donc ça va se continuer et surtout, eh bien on voit que, alors ça n'a rien à voir avec le secteur de la technologie, mais on voit qu'il y a d'autres secteurs comme les secteurs bancaires qui annoncent aussi des licenciements aux États-Unis. On se souvient notamment la semaine passée de Goldman Sachs qui a annoncé des licenciements de 3200 personnes, ce qui est assez rare pour la banque américaine.
Effectivement, et un certain nombre de banques, c'est un article du FT qui l'explique, un certain nombre de banques anticipent le plus fort mouvement de licenciement, de suppression de postes dans le secteur bancaire depuis la crise de 2008 dans les prochaines semaines. On va suivre tout ça de très près. Côté macroéconomique, justement, John, quels seront les grands rendez-vous susceptibles de faire bouger les marchés américains?
Écoutez, j'ai l'impression, Guillaume, que chaque lundi, on dit la même chose parce que cette semaine va être très importante. Demain, évidemment, les PMI. Donc, on va voir quelle est la vigueur des entreprises aux États-Unis. Mercredi, on aura la réunion de la Banque du Canada. Vous allez me dire, mais pourquoi je parle de la Banque du Canada? Eh bien, c'est souvent un indicateur avancé pour la Réserve fédérale américaine. Donc, ça va être très intéressant de voir son message globalement. Jeudi, on va avoir la croissance américaine pour le quatrième trimestre et les commandes de biens durables. Et finalement, vendredi, on aura l'inflation ce PCE et pas l'IPC. Le PCE, c'est un des indicateurs sur l'inflation qui est le plus regardé par la réserve fédérale américaine. Donc on aura ici aussi une indication sur ce fameux rendez-vous de la réserve fédérale américaine qui aura lieu la semaine prochaine.
Effectivement, dans 9-10 jours à suivre la décision de la Fed. En attendant, le dollar glisse encore, recule assez nettement face à l'euro et au point, on en parle beaucoup aujourd'hui sur BFM Business, au point que l'euro tout à l'heure a refranchi pour la première fois depuis avril dernier la barre du dollar 0,9. Jusqu'où, d'après vous, cette baisse du dollar pourrait-elle aller, John ?
Ben écoutez, on peut continuer encore un peu, mais le gros du mouvement, selon moi, a été fait. Vous l'avez dit, il y a un membre de la Banque Centrale Européenne qui s'est exprimé ce week-end en disant qu'il fallait des hausses de taux de 50 points de base. On a eu plusieurs sondages qui ont été publiés, notamment du Financial Times, en disant que la majeure partie maintenant des analystes estiment qu'il n'y aura pas de récession en zone euro. Si vous regardez le modèle de la banque JP Morgan, c'est exactement la même chose. On ne parie plus sur une récession. Et d'un autre côté, on sait qu'on est proche aux États-Unis, d'une réduction, d'un arrêt des hausses de taux. Alors, pas tout de suite, mais on est proche de la pause, beaucoup plus proche que la Banque Centrale Européenne. Alors, si vous prenez les deux côtés de l'Atlantique, le discours commence à être différent, ce qui explique évidemment la hausse de l'euro face au dollar. Mais rappelons une chose, les membres de la Fed sont dans la période, ce qu'on appelle la période de blackout. Ils n'ont plus le droit de parler avant la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui va dicter l'évolution de l'euro-dollar? Ben c'est évidemment les statistiques économiques dont on a parlé avant, qui vont être publiées cette semaine notamment.
Effectivement, et dont vous nous parlez dès aujourd'hui pour tenter d'apporter un coup d'avance, bien sûr, à ceux qui nous suivent quotidiennement dans BFM Bourse. John, du côté des entreprises, on le disait, il va y avoir beaucoup de publications à suivre cette semaine, ça va beaucoup animer Wall Street. Du côté des actualités du jour, avant que ne publient d'autres entreprises, quelles sont celles qui retiennent le plus votre attention? Tout à l'heure, Sabrina nous parlait de Salesforce, de Spotify, d'Apple. Quels sont les titres que vous regardez particulièrement dans la séance du jour américaine?
Alors, on en a parlé, mais vous savez, il y a une société qui est assez importante, qui sont dans les services pétroliers, qui s'appelle Baker Hughes, qui a publié des résultats pour le quatrième trimestre en dessous des attentes. Ça paraît assez incroyable, mais ils mettent en avant le manque de composants, la hausse de l'inflation et évidemment la perturbation à cause de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est important. C'est peut-être un indicateur avancé sur ce que va publier Chevron vendredi. Et puis, une chose assez intéressante aussi sur la question de l'inflation, écoutez, les jeans, je ne sais pas si vous avez des jeans, Guillaume, mais JP Morgan vient de baisser sa recommandation sur Levi-Strauss en indiquant que la société est frappée de plein fouet par la hausse des matières premières. Et dernière information que j'ai retenue, au-delà de celle que vous avez dit avant, Microsoft a confirmé son intérêt et son investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Donc, vous savez, c'est le propriétaire du fameux ChatGPT, le robot avec lequel vous pouvez parler ou poser des questions et qui vous répondra, normalement.
Eh oui, normalement, en effet. Et Microsoft qui continue de se positionner de plus en plus sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en direct, John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi sur vos écrans. Tout à l'heure, après 18h, sur nos réseaux sociaux de BFM Business, BFM Bourse également, vous aurez, en tout cas, on va tout faire pour que vous obteniez une réponse à ces questions que vous vous posez sur vos investissements en bourse. N'hésitez pas donc à nous les envoyer en scannant ce QR code et Amaury de Tonquédec transmettra vos questions à son expert. Ce sera à suivre donc en direct sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Les réseaux sociaux de BFM Bourse et BFM Business après 18h. Et puis si vous nous suivez à la radio, vous pouvez aussi nous adresser vos questions par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr.
BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs.
Chaque jour, en effet, l'investissement responsable a son rendez-vous sur BFM Business, c'est à 16h20. Partageons nos valeurs et chaque lundi, on vous présente les performances de notre portefeuille BFM responsable. Ça se passe bien, notre portefeuille BFM responsable a encore surperformé le reste du marché la semaine dernière, comme la semaine d'avant, comme depuis le début de l'année, comme l'an dernier et quand même l'année d'avant. Notre portefeuille constant dans la surperformance. Alban Préaubert vient de nous rejoindre, l'un des trois co-gérants de ce portefeuille. Bonjour Alban.
Bonjour.
Alban Préaubert pour Sycomore AM. Alors on va parler des performances de notre portefeuille, d'une quinzaine de valeurs, on le disait, toutes éligibles aux critères de l'ISR. Juste avant, un mot de l'investissement responsable au global et son impact peut-être pour pour les ETI. C'est une journée spéciale aujourd'hui sur BFM Business consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Comment se positionnent-elles les ETI face à l'investissement responsable? Sont-elles mieux-disantes? Ont-elles l'agilité suffisante pour transformer positivement leur business? Ou au contraire, ont-elles plus de difficultés que les toutes petites entreprises et moins de moyens que les grandes entreprises du CAC? Comment est-ce qu'elles évoluent face aux exigences ESG?
C'est une question intéressante parce que justement, les sociétés de petite taille, les ETI, sont historiquement moins couvertes par les agences de notation extra-financière sur laquelle se base un grand nombre de gérants pour faire leur sélection ISR. Également, c'est des sociétés qui ont eu moins de contraintes sur le reporting RSE et qui ont moins de moyens tout simplement pour consolider une batterie d'indicateurs RSE, publier des centaines de pages de rapports de développement durable. Et pour autant, c'est des sociétés qui souvent ont des très bonnes pratiques. Mais il faut prendre le temps d'aller chercher l'information, de faire des rencontres avec le management, d'aller sur site voir effectivement ces bonnes pratiques. Et il y en a. Il y a beaucoup de petites sociétés qui, effectivement, sont très avancées sur les enjeux RSE, mais qui n'ont pas forcément formalisé tout ça dans des documents. Mais par contre, l'ADN, vraiment, il est présent et il est responsable dans de très grandes entreprises de petite taille.
Parce que le problème de la réglementation, c'est qu'elle elle va de plus en plus, en effet, et tant mieux, hein, pousser les entreprises à améliorer leurs pratiques, très bien, mais encore faudra-t-il que ces entreprises apportent la preuve, oui, à travers un certain nombre de data, de leur impact positif. Mais ces data, il faut les acquérir, il faut les trouver, ça coûte de l'argent. Toutes les entreprises n'ont pas les moyens. Alors, les toutes petites entreprises, peut-être encore moins, mais au moins sont-elles agiles. Qu'en est-il des ETI, des entreprises de taille intermédiaire que vous suivez particulièrement, vous, pour Sycomore AM?
Oui, et effectivement, ça aussi, c'est un point fort, je pense, sur cette classe d'actifs, hein, des ETI, c'est qu'elles sont effectivement beaucoup plus flexibles que les grandes multinationales. C'est vrai que repenser un peu son ADN, instaurer de nouvelles valeurs d'entreprise, repenser aussi l'offre produits et services pour qu'elle soit mieux adaptée aux grandes tendances, ça va assez vite finalement, c'est assez facile à faire dans une petite entreprise, c'est beaucoup plus complexe quand on pilote un gros paquebot, une multinationale qui est assez difficile à manœuvrer, changer l'état d'esprit des employés, c'est aussi plus compliqué. Donc là aussi, c'est un avantage vraiment concurrentiel fort pour les ETI qui doivent d'ailleurs s'aligner de plus en plus avec ces grandes tendances sociétales et environnementales parce que c'est aussi important pour eux pour faire du business, pour répondre aux appels d'offres des grands donneurs d'ordre qui instaurent de plus en plus des critères RSE dans leurs exigences, dans les contrats, et idem pour les banques dans les financements.
Mais question basique, dans notre portefeuille BFM Responsable, on a des ETI, on a choisi d'investir dans des entreprises de taille intermédiaire?
En effet, on en a. On peut citer l'exemple de Voltalia ou d'Equasense. Et justement, c'est intéressant parce que c'est des acteurs vraiment lisibles qui sont des pure players. Donc Voltalia dans le développement d'énergie renouvelable, Equasense, qui est l'ancien Pharmagès, donc dans l'édition de logiciels pour la santé, pour structurer, améliorer l'offre de soins en Europe. Et là, vraiment, c'est assez facile finalement de faire l'analyse ESG des pratiques et des offres de produits de ces acteurs. C'est un business lisible, unique, alors que souvent sur les large cap, les grosses entreprises, il y a plein de business, donc certains sont très vertueux, d'autres le sont moins. Et il faut faire une somme de toutes ces pratiques.
Voilà, les ETI face aux enjeux ESG. Et notre portefeuille BFM Responsable qui cartonne, qui a moins reculé que le reste du marché la semaine dernière et qui, depuis le début de l'année, notre portefeuille gagne 10,5%, là où l'Eurostock 50 ne gagne que, entre guillemets, 8,5%. C'est-à-dire qu'on a mieux fait que le marché en 2020, on a mieux fait que le marché en 2021, en 2022, et on démarre 2023 en faisant également mieux que le marché, que ce soit dans les séances de hausse ou dans les semaines de baisse, comme la semaine dernière, on a moins reculé que le reste du marché. Comment est-ce qu'on l'explique ça, Alban? Bravo! Non mais bravo aux trois co-gérants, Alban, Frédéric Rosier pour Mirabeau et Guillaume Chaloin pour Mescartes.
Le talent de nos partenaires chez Mirabeau et chez Mescartes, mais également la valeur ajoutée de l'ISR, on est vraiment tous convaincus de la valeur ajoutée de l'alpha qui est capable de créer l'analyse des critères extra-financier, et voilà, j'espère que ce portefeuille responsable en témoigne et continuera à en témoigner en tout cas.
La semaine dernière, les moteurs à la hausse, les moteurs de la surperformance en tout cas du portefeuille par rapport au reste du marché, c'était SPI qui a progressé 2%, qui est présent dans notre portefeuille. Air Liquide aussi a gagné quasiment 2%.
Oui, alors SPI avait un petit peu de retard. Le titre avait souffert en début d'année d'une annonce d'émission obligataire un peu dilutive. Alors sur le long terme, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que les coûts de financement, les frais financiers vont baisser, donc ce sera même une opération plutôt relutive, mais à court terme, c'était assez dilutif. collectifs, donc le titre avait un peu souffert. Air Liquide, pareil, c'est un peu des mouvements techniques finalement, parce qu'on sait que Line 2 va être retirée de cote, et pas mal d'acteurs qui souhaitent jouer le secteur des gaz industriels, qui est un secteur prometteur, se repositionnent aussi sur Air Liquide, donc c'est positif pour la, ça a été positif pour la valeur, ça devrait continuer à soutenir le titre dans les prochaines
semaines. Puisque Line 2 va quitter le DAX, hein, c'est l'annonce
exactement,
de la semaine dernière.
Exactement, et c'est vrai que c'est un beau business, hein, que ce soit Line 2 ou Air Liquide, beaucoup de pricing power, une industrie en croissance, donc intéressant de se positionner sur ces acteurs.
Et donc deux valeurs qui surperforment au sein de ce portefeuille virtuel, hein, on le rappelle, d'une quinzaine de valeurs toutes éligibles aux critères de l'investissement responsable. Vous pouvez retrouver la composition précise du portefeuille bien sûr dans le replay de nos échanges et sur notre site BFM Bourse, BFM Business, des valeurs qui en plus présentent l'avantage pour la plupart d'entre elles d'être éligibles au PEA pour bénéficier de l'avantage fiscal du PEA. Vous avez quand même, vous êtes opportuniste, hein, vous avez beau faire de l'investissement responsable, vous n'en restez pas moins opportuniste et des investisseurs agiles. Vous avez choisi la semaine dernière de sortir ASML du portefeuille, ASML qui avait bien performé, vous avez choisi de prendre des bénéfices. Très bien. Et vous venez nous annoncer un autre changement au sein du portefeuille, une autre valeur va le quitter ce portefeuille cette semaine.
Oui, alors c'est la même logique, hein. On prend des profits sur L'Oréal cette fois-ci, donc les fondamentaux de la société restent magnifiques, hein, mais néanmoins, on a était plutôt pertinent dans notre market timing. Hein. On a rentré la valeur en octobre, elle a bien performé depuis, notamment avec la sortie de la politique zéro Covid en Chine, qui a un peu poussé les valeurs exposées au luxe. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus trop d'upside à court terme sur cette valeur, donc on préfère prendre des profits et sortir L'Oréal, en effet.
L'Oréal qui avait gagné 14% depuis le 1er janvier. Et du coup, on a déjà des velléités, des envies d'arbitrage. On sort L'Oréal comme on l'avait sorti à ASML pour racheter certains titres, ou on attend avant de re-remplir notre besace.
Alors un peu de prudence à court terme quand même, parce que c'est vrai que voilà, ça va très vite, hein, ça a été très vite en ce début d'année, plus 10% en moins d'un mois, c'est génial, on a beaucoup d'ambition, de performance, mais là quand même ça a été très vite, il y aura peut-être une petite pause, peut-être des meilleurs points d'entrée, mais on est quand même très, on reste actif, on reste à l'affût de beaux points d'entrée, et notamment sur les petites et moyennes valeurs justement, où il y a vraiment un rattrapage qu'on attend assez fort sur cette classe d'actifs. On regarde des dossiers comme Alde par exemple, on en débat, mais c'est possible qu'on remplace ces lignes de cash, ces deux lignes de cash, par des futures valeurs dans les prochaines semaines.
En attendant, une petite consolidation de marché pour re-rentrer dans les meilleures conditions, c'est l'idée.
Voilà, c'est un peu notre point de vue.
Ouais, la hausse en ligne droite mériterait une respiration un peu plus nette que celle de la semaine dernière.
On espère qu'elle ne sera pas violente, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été vite.
Alban Préaubert, Sycomore Asset Management, qui nous accompagne donc sur la co-gestion de ce portefeuille BFM Responsable. Merci beaucoup Alban d'être passé nous voir.
Merci.
Et on rappelle la surperformance. Hein, depuis le début d'année, notre portefeuille gagne 10,4%, alors que l'Eurostock 50 gagne 8,5%. Bon retour Alban. Dans un instant, on va se rebrancher à la séance du jour, rejoindre notre analyste technique. Le CAC 40 gagne 0,1%, puis on parlera aussi crypto, notre club BFM Crypto. Ce sera juste après la pause, dans moins de 2 minutes. A tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
À vos côtés, on vous accompagne pendant encore 1h30 en direct sur BFM Business. Dorian Abadi nous rejoint pour Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver avant les publications qui vont animer cette semaine de plus en plus. Demain notamment, on suivra demain par exemple la Compagnie des Alpes, son chiffre d'affaires trimestriel, mais aussi Interparfums, Partouche. Et puis par la suite, Alstom également qui publiera cette semaine. LVMH, on l'oublie pas, et les GAFAM qui vont commencer aussi. En attendant, on a des volumes plutôt faibles sur la séance du jour, mais quand même une hausse. Est-ce qu'à votre avis, d'un point de vue technique, alors que le CAC a reconquis les 7005 points, est-ce qu'à votre avis, les marchés européens en ont encore beaucoup dans le ventre pour poursuivre leur rebond ? Dorian.
Oui, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a plusieurs résultats d'entreprises de premier plan à attendre cette semaine, à l'entame également d'une semaine chargée d'un point de vue économique. Ce lundi, mais comme beaucoup de lundis, est relativement calme sur les marchés. Les grands niveaux que l'on surveille au niveau de meilleurs taux placement sur le CAC 40 pour les prochaines séances, ce sont principalement les 7100 points et 7170 points par extension au niveau des résistances. Sur les supports, donc les valeurs inférieures aux niveaux actuels, ce sont principalement les 7000 points et 6900. Et naturellement, comme vous l'avez souligné, ce sont surtout ces résultats d'entreprise qui peuvent servir à nouveau de catalyseur pour le maintien de cette hausse, puisque sur le CAC, on est tout de même à plus 8,5% depuis le 1er janvier.
Effectivement, alors le mouvement le plus spectaculaire et peut-être le plus intéressant aujourd'hui, on le trouve sur les devises. L'euro a franchi pour la première fois depuis le mois d'avril la barre d'1,09$. On repasse un peu en dessous là cet après-midi, c'est vrai, 1,0850$. Mais quand même, on les a refranchis, on l'a refranchi ce 1,09$. Avec des propos de membres de la Banque Centrale Européenne encore très faucons. Est-ce qu'à votre avis, il reste beaucoup de chemin à la hausse sur l'euro face au dollar? L'un de nos intervenants nous disait tout à l'heure qu'à ses yeux, on avait remonté que la moitié du chemin face au dollar et qu'il restait à franchir l'autre moitié, qu'on remonterait sans doute vers 1,15. Ce serait sans doute l'objectif de cette phase de remontée de l'euro face au dollar. Est-ce que c'est aussi votre scénario, Dorian?
Pourquoi pas à moyen terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois consécutifs. En tout cas, le scénario qui nous intéresse le plus à court terme, c'est avant tout donc une résistance sur les 1,10 à 1,1035, qui est vraiment le niveau le plus critique parce que c'est un niveau psychologique très très fort. C'est surtout cette valeur-là que l'on surveille vraiment à court terme. Pour le moment, c'est vrai que l'euro-dollar a le plus grand des mal, la plus grande des difficultés à se maintenir au-dessus des 1,09, que l'on a brièvement testé, hein, c'est ce que vous évoquiez. Et au niveau des supports, ce sont surtout les 1,0750 et 1,07 que l'on surveille sur les toutes prochaines séances. C'est vrai que les 1,15 paraissent un petit peu lointains, un petit peu ambitieux pour le moment, donc on se concentre surtout sur ces niveaux-là pour les toutes prochaines séances.
Et puis, alors les marchés chinois sont fermés, ils vont rester fermés une bonne partie de la semaine en raison du nouvel an chinois. Ça y est, la Chine est entrée dans l'année du lapin. Alors l'année du lapin, c'est un animal agile, le lapin, dans l'astrologie chinoise. Agile, mais peu déterminé. Il a donc du mal à construire dans la durée. On verra ce que ça donne, ce que nous offre cette année du lapin chinoise. En attendant, les marchés parient toujours sur l'accélération de l'activité mondiale. Grâce à la réouverture chinoise, le baril de pétrole est en hausse, une nouvelle fois en hausse, malgré la fermeture des marchés chinois d'Orient. Le baril de Brent est à plus de $88 en ce moment. Jusqu'où cette hausse des matières premières, en tout cas du pétrole, d'après vous?
Absolument, c'est vrai que cette hausse est soutenue bien sûr par la réouverture de l'économie chinoise. Vous l'avez mentionné, on est aux alentours de $88, un petit peu au-dessus pour le Brent. Bien sûr, à court terme, c'est la résistance psychologique, le niveau rond des $90 l'unité qui nous intéresse. Et par extension, pourquoi pas une valeur un petit peu plus technique sur les 91,50 exactement.
Merci beaucoup. Les experts de Néo Placement nous accompagnent régulièrement. Dorian Abadie en direct. Si vous avez peut-être des questions, vous qui nous suivez, qui nous regardez, qui nous écoutez en direct, des questions sur vos portefeuilles boursiers, chaque soir, il tente d'y répondre avec son expert, Amaury de Tonquédec. Mesdames, messieurs, bonsoir Amaury, bonjour.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Ravi de vous retrouver, on vous retrouvera notamment tout à l'heure après 18h sur les réseaux sociaux de BFM Business, comme chaque jour désormais.
Et on commence la semaine avec Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. On parlera de la première capitalisation américaine, Apple, mais aussi de la première capitalisation européenne, LVMH. On parlera du luxe donc, et on en profitera pour répondre notamment à Bernard, qui se demande s'il vaut mieux acheter deux actions LVMH plutôt qu'une action Hermès. Thomas nous écrit aussi et nous demande si l'action Eutelsat, qui a beaucoup souffert en bourse, est toujours un bon placement à horizon 2 ans. Et évidemment, vous nous écrivez, vous nous posez vos questions en scannant ce QR code ou alors en nous écrivant à bfmbourse@bfmbusiness.fr.
Pour le grand débrief sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, chaque soir après 18h du lundi au jeudi. À tout à l'heure, Amaury. Et n'hésitez pas à nous envoyer donc vos questions par mail ou en scannant ce QR code qui va continuer de s'afficher bien sûr tout au long de l'après-midi si vous nous suivez à la télé ou encore sur l'appli BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Et oui, chaque après-midi, notre club BFM Crypto pour vous aider à comprendre les convulsions de cet écosystème crypto et la remontée hein, du Bitcoin qui se confirme. On est à plus de $22,000 sur le Bitcoin en ce moment. On va en parler avec nos expertes aujourd'hui. Nathalie Janson vient de nous rejoindre. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de BFM Business, professeur associé à la Neoma Business School. Pauline Armandet, comme chaque lundi. Bonjour Pauline.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Cette newsletter BFM Crypto que vous proposez à tous ceux qui nous suivent et qui peuvent encore s'abonner, bien sûr, puisque cette newsletter est gratuite. Vous la publierez tout à l'heure, comme chaque lundi, c'est à 18h. Et on va en parler dans un instant, une interview d'Éric Larchevêque.
Oui, tout à fait.
Dont vous nous livrerez la substantifique moelle, sa vision de l'avenir crypto, lui l'un des piliers de l'écosystème en France, cofondateur de Ledger. Et Vincent Bois aussi qui nous accompagne depuis IG. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume.
Alors, on est content de vous retrouver. Vincent, quel avenir et quel potentiel surtout sur le Bitcoin, malgré l'affaire FTX, alors qui avait sacrément secoué l'écosystème, et malgré surtout la mise sous faillite de Genesis, c'était en fin de semaine dernière, finalement le Bitcoin résiste et on est toujours proche même des 23 000 $ en ce moment. D'un point de vue technique, reste-t-il à vos yeux beaucoup de potentiel pour ce rebond du Bitcoin ?
Alors, le rebond, effectivement, se poursuit depuis maintenant le début de l'année. Donc, au niveau technique, effectivement, c'est plutôt positif. Comme vous venez de le dire, il y a toujours des inconnus au niveau de la structure du marché avec Genesis et d'autres qui peuvent amener à certains risques. Au niveau technique, eh bien, il faudrait aller sur les 25 000 dollars. Pour moi, comme je le disais la semaine dernière, eh bien, il faudrait tout de même une respiration, revenir vers les 20 000 dollars, 19 700, ce niveau psychologique fort. Et un rebond sur ce niveau permettrait justement probablement de valider une tendance haussière de long terme. Pour le moment, les choses vont un peu vite, que ce soit sur le marché traditionnel ou le marché des crypto-monnaies, et donc sur le Bitcoin également. Donc, un retour en arrière pour confirmer justement qu'on peut se maintenir sur les 20 000 dollars paraît pour moi essentiel pour valider la tendance de fond. À la hausse, eh bien, les 25 000 dollars, c'est un niveau psychologique également important. Le plus haut niveau que l'on a vu depuis juin, l'affaire Terra, donc que l'on a vu avant STX, une moyenne mobile également, donc un niveau technique important. Mais il faut cette respiration. Il faut pas oublier que depuis le début du bear market, depuis le début du marché baissier, on a déjà eu deux rebonds de 40% sur le prix du Bitcoin. C'était en mars-avril et c'était également durant l'été. Et les deux se sont soldés par un retour sur un nouveau plus bas. Donc attention tout de même à cette vitesse et attention à probable retour. Il faut cette confirmation sur le rebond sur les 20 000 pour moi.
Et sur Ether, même discours. Quel potentiel pour la suite sur l'Ether, d'après vous, Vincent ?
Eh bien, également, alors, on en parlait de la même manière la semaine dernière, sur l'Ether, on n'est pas venu chercher de nouveaux plus bas. Le plus bas sur l'Ether date de juin, donc après, justement, Terra Luna. L'affaire FTX n'a pas amené de nouveaux plus bas. Donc, un maintien tout de même un peu plus important, peut-être aidé par les informations, l'évolution, c'est la différence sur l'Ether et les crypto-monnaies. Il y a une évolution un peu du protocole. Sur Bitcoin, non, il reste ce qu'il est. Et donc peut-être que cela a aidé l'Ether à se maintenir. Au niveau technique, et bien de la même façon, un retour sur les 1420 dollars, l'ancien plus haut historique, la moyenne mobile également permettrait de valider, d'avoir un rebond plus sain au niveau technique. Et donc à la hausse, et bien ce sont toujours les 1720 dollars que l'on va surveiller pour aller un peu plus haut. Mais attention donc, ce que je viens de préciser sur Bitcoin est valable également sur le marché des crypto-monnaies, sur l'Ether, et donc attention tout de même à une rapide accélération qui pourrait se solder par un retour en arrière tout de suite.
Et attention tout court pour les investisseurs en crypto, ce marché restant très spéculatif et volatile, et ça on le répète à chaque fois. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci. Vincent Bois depuis IG en direct, et on rappelle aussi que les seuils techniques que vous fournissez régulièrement ne constituent pas des conseils en investissement. Nathalie, d'autant que l'écosystème reste pris de nombreuses convulsions, on a vu l'affaire FTX et ses impacts à haute fragmentation, on va le dire comme ça, ses nombreux impacts en tout cas. Et la semaine dernière, fin de semaine dernière, on apprenait que Genesis, sans grande surprise, comptait se placer sous le chapitre 11, sous le régime de protection des faillites aux États-Unis. Conséquence donc de l'affaire FTX et de possibles impacts. Genesis en faillite, ce serait quelque chose d'absolument colossal à nouveau pour l'écosystème. Comment est-ce que vous regardez en tout cas cette annonce du chapter 11 pour Genesis ?
Alors, pour le cas de Genesis, on dirait que c'est plutôt toutes les conséquences qu'on attendait au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'on se demandait qui allait tomber. Donc, évidemment, Genesis faisait partie des potentiels fragiles. Et voilà, la réalisation s'est faite. Alors, on voit que c'est quand même quelque chose qui était anticipé, puisque, comme il vient d'être dit, ça n'a pas beaucoup fait frémir le Bitcoin. De toute façon, cette crise de FTX n'est pas celle qui a donné le coup de grâce le plus fort au Bitcoin, puisque c'est pas là où il a baissé le plus, faut le rappeler aussi. Mais là, on peut dire qu'on est plutôt dans, voilà, au fur et à mesure, on voit ceux qui n'ont pas résisté aux conséquences d'FTX, c'est-à-dire qu'effectivement, comme dans cet écosystème, il y avait beaucoup de prêts qui étaient faits par rapport, enfin, les uns se prêtaient aux autres, et donc on avait tout un enchaînement, en fait, de prêts. À partir du moment où les dates arrivent d'échéance et où elles sont plus honorées, on accumule, et puis à un moment donné, on passe au chapter 11. Donc voilà, donc moi je n'ai pas un regard très pessimiste sur ce qui se passe, c'est juste on continue à dérouler en fait les conséquences dans le système d'FTX, puisque comme on l'a bien vu, c'était assez compliqué, enfin les imbrications étaient plutôt compliquées, donc au fur et à mesure se révèle les plus faibles s'en vont.
Et l'on se rassure en se disant que 2023 sera difficilement plus catastrophique que 2022.
Oui, parce que de toute façon, pour le moment, on est comme ça a déjà été dit voilà le, cette envolée délirante des crypto-monnaies est allée avec des taux d'intérêt qui étaient très bas des banques centrales. Enfin voilà, donc là comme on est quand même à un retour au calme et que sur le front des banques centrales il y a quand même pas non plus d'envie de retourner la situation, on se dit que 2023 devrait être plus calme.
Eh oui, on sent venir un ralentissement des hausses de taux des banques centrales, ce qui sans doute concourt à redonner de la force et de la vigueur au cours du Bitcoin. Alors dans ce contexte, il est intéressant d'interroger les grands anciens, c'est pas leur faire insulte, mais voilà, les pionniers de l'écosystème en France, et on pense là à l'un des cofondateurs de Ledger, Éric Larchevêque. Pauline, dans cette newsletter BFM Crypto à paraître à 18h tout à l'heure, vous proposez cette interview d'Éric Larchevêque qui aujourd'hui n'est plus à la tête de Ledger. Il est membre du jury de Qui veut être mon associé sur M6, complètement autre chose, mais il garde évidemment un point de vue très intéressant sur l'écosystème. C'est pour ça que vous l'avez interrogé.
Oui, et du coup c'est vrai que c'était intéressant d'avoir son avis global sur l'écosystème crypto. Alors effectivement, en ce moment il est sur M6, mais c'est vrai qu'il le connaît l'écosystème crypto depuis très longtemps. Pour la petite histoire, il a découvert le Bitcoin en 2013, donc ça remonte à il y a 10 ans maintenant. Et en fait, au départ, il avait même considéré que le Bitcoin pouvait être une arnaque. Il se disait, tiens, c'est de l'argent facile sur Internet. Enfin, c'était sa première vision du Bitcoin. Et puis, assez rapidement, il lit beaucoup de choses à ce sujet et il se rend compte des fondamentaux, en fait, de la blockchain Bitcoin et du Bitcoin. Et en fait, il ne va pas vouloir perdre de temps. Il décide de fonder deux crypto-sociétés, notamment la maison du Bitcoin, donc en 2014, soit un an après sa découverte. En fait, la maison du Bitcoin, c'était un lieu physique où, en fait, on pouvait poser des questions sur le Bitcoin et sur la blockchain. Et puis ensuite, ça deviendra d'ailleurs CoinHouse à partir de 2018, la plateforme d'échange française de crypto-monnaies. Et il a aussi fondé, comme on le disait, Ledger.
Waouh.
Donc oui, ça fait deux grosses sociétés crypto françaises. Et ce qui fait que, oui, en fait, ça fait 10 ans qu'il connaît bien cet écosystème. Et qu'il a d'ailleurs notamment connu de nombreux cycles baissiers, donc de nombreux bear markets, et évidemment cette année 2022 qui a été particulièrement compliquée.
Il en a vécu des montagnes russes dans l'écosystème, mais il a tenu bon et il a donc cofondé Ledger, vous le disiez, la maison du Bitcoin, c'est ça?
La maison du Bitcoin.
Aujourd'hui CoinHouse, c'est pas n'importe qui, Éric Larchevêque, dans l'écosystème, il est très respecté. Et c'est pour ça, après cette année 2022 absolument atroce que l'on vient de vivre, pour ça qu'il était intéressant de recueillir son point de vue, comment il positionne 2022 dans l'histoire des cryptos, dans son propre vécu de l'évolution de l'écosystème.
Alors, il a deux visions assez différentes de cette année 2022, à la fois des points très négatifs et des points positifs. Sur les points négatifs, il reconnaîtra évidemment, comme tout le monde, ses effondrements à répétition en série. On se souvient de Terra Luna, de Sri Aro Capital, de Celsius et évidemment du géant FTX. Ce qui fait que pour lui, je le cite, l'écosystème ne peut pas encore être pris au sérieux et c'est assez dommage. Il qualifie d'ailleurs l'écosystème crypto de clown dans le sens où il va dire que les gens n'ont pas forcément appris par exemple de la faillite d'une autre très grosse plateforme à l'époque en 2014 de Mt. Gox. Là, il y a une nouvelle faillite FTX qui a plongé cette fois-ci des millions de clients en fait dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds. Donc là, c'est sa vision un peu pessimiste de l'écosystème.
Il dit qu'on a perdu 2-3 ans. On est en train de prendre 2-3 ans de retard par rapport à ce qui pourrait être le plan de marche de développement de l'écosystème s'il n'y avait pas eu FTX.
Ouais. Effectivement, ouais. Donc 2-3 ans de retard maintenant dans le développement de l'écosystème. Mais par contre, l'aspect un peu positif aussi de ce bear market, c'est que selon lui, eh bien, évidemment, ce qui ne va pas changer, c'est Bitcoin et c'est le fondamental de cette blockchain. Il va rappeler un certain mantra aussi qui va être utilisé par les Bitcoin maximalistes, c'est qu'un Bitcoin sera toujours égal à un Bitcoin, ce qui en fait va le rendre assez serein en fait en la matière, parce que même si le cours du Bitcoin va baisser, pour lui ce fondamental ne va pas changer. Et voilà, il dort d'ailleurs beaucoup mieux avec ses avoirs en Bitcoin que ses avoirs en euros. Enfin, c'est ce qu'il nous a aussi confié
dans cette interview. Il vous dit: je dors beaucoup mieux, je dors sur mes deux oreilles en sachant que j'ai des Bitcoins plutôt qu'en sachant que j'ai des avoirs en euros.
Ça le rassure beaucoup plus d'avoir des Bitcoins que des euros, parce que effectivement pour lui il va y avoir aussi pas mal de problèmes au niveau des monnaies, et selon lui le Bitcoin va être une certaine valeur refuge.
Interview à retrouver donc dans cette newsletter à laquelle on vous recommande de vous abonner. Elle est gratuite chaque lundi à 18h. Interview que vous avez menée d'Éric Larchevêque, on le disait, cofondateur de Ledger, Quelle vision a-t-il de l'avenir de l'écosystème ?
Là, il nous a partagé deux visions assez intéressantes. La première, et ça c'est d'ailleurs bon, un constat que tout le monde peut faire, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui payer par exemple sa baguette de pain en crypto-monnaie, en bitcoin. Ça, c'est un fait. Même s'il y a quelques services un peu de niche, type Lightning Network pour le bitcoin, ou des cartes type Binance Card, voilà, sur Binance, ça s'adresse vraiment à des geeks, à des particuliers. Donc, le paiement en crypto-monnaie, ça c'est vraiment pas démocratisé. Selon lui, l'adoption réelle interviendra quand en fait les utilisateurs vont avoir affaire à des services où ils se rendront même pas compte qu'ils vont payer en crypto-monnaie. Ça sera vraiment une adoption vraiment de masse et assez majeure en termes de démocratisation. Et selon lui, ça passera aussi par le fait que les États vont en fait avoir aussi une autre vision des crypto-monnaies et du Bitcoin, notamment quand ils voudront en fait, par exemple, avoir dans leur réserve des Bitcoins. Selon lui, si à l'heure actuelle on sait que le Salvador, va acheter différents Bitcoins et ça fait partie de la stratégie de ce pays-là, il pense que d'ici 5 ans, à un horizon 5 ans, d'autres États vont aussi pouvoir avoir en réserve du Bitcoin ou des crypto-monnaies, ce qui pourra favoriser une adoption plus importante des crypto-monnaies.
Bon, on vit d'espoir, mais peut-être que cela viendra, et c'est sa vision, il maintient ce regard, il continue de forger ce scénario favorable sur la démocratisation peut-être un jour massive des cryptos. Il continue du coup d'investir dans l'écosystème ou il est passé à autre chose ?
Oui, il continue d'investir à droite et à gauche dans différentes sociétés, par exemple une société française Sorar, parce que effectivement, il continue d'être investisseur et entrepreneur, donc il a évidemment pas tourné la page des crypto-monnaies.
Bon, Nathalie ?
Oui, je comprends. De toute façon, moi, je partage. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un gadget, même depuis le départ, même si je n'ai pas investi du tout au départ. J'ai pas le même profil du tout que qu'Eric. Mais c'est surtout la façon dont, c'était l'offre de la proposition de Bitcoin qui était très intéressante en termes de capacité à faire la même chose que notre système bancaire, mais autrement. Et c'est pour ça que j'ai toujours jugé que c'était vraiment la plus intéressante. Bon, après, on a l'Ethereum. Mais j'ai jamais vraiment considéré les autres qui sont certes intéressantes, mais où je trouvais que c'était pas aussi profond que la proposition Bitcoin, qui est quand même un peu plus profonde que juste se dire qu'on fait de la blockchain.
Qui reste très très volatile, c'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie. Bon,
c'est pas... Et puis je ne l'ai jamais considéré comme un investissement non plus en tant que tel. C'est-à-dire c'est pas un portefeuille, je ne m'amuse pas à faire un portefeuille où je vais acheter et vendre. Donc Donc c'est plutôt une conviction.
Quel regard le Forum économique de Davos porte-t-il sur les cryptos ? À l'instant, Pauline nous parlait du regard d'un des pionniers de l'écosystème, Éric Larchevêque. Du côté des... On parlait d'écosystème, du côté du système en l'occurrence, Davos, quels échanges vous ont le plus marqué dans ce forum économique qui s'est tenu la semaine dernière ?
Alors il y a eu une petite blague, une petite scène un peu particulière, c'était la fameuse voiture orange qui a été garée à un moment donné devant le lieu du forum, et en fait c'était une coïncidence, cette voiture était en fait à la couleur du bitcoin, il y avait sur ses pneus dans le bitcoin on a foi, donc voilà, donc ça c'était le... Mais ça n'avait rien à voir avec Davos, c'était simplement une coïncidence. La personne en fait qui l'avait garé là l'a garé sans faire exprès là, donc ça avait ému beaucoup de gens de retrouver, parce que effectivement les crypto-monnaies n'ont pas ne sont pas en odeur de santé en ce moment, même si mine de rien c'est pas directement les cryptos, mais le président du forum de Davos, donc Schwab, a évoqué par contre plus sérieusement le métavers. Il y a eu d'ailleurs une inauguration d'un partenariat avec Microsoft sur avoir l'idée de développer en fait le forum de Davos en utilisant le métavers en fait, pour que finalement ce forum devienne quelque chose de plus ancré dans le quotidien, puisqu'en fait on pourra avoir ce forum toute l'année au lieu de l'avoir sur une semaine, ce qui permettrait aux communautés de se rencontrer sans se déplacer. Donc en fait, là, il a une ferme conviction qu'il pourrait démocratiser Davos pour qu'il y ait des, voilà, des discussions qui se fassent par type de questionnements qui ont été évoqués à Davos. Et il disait même qu'il pourrait, ça pourrait être l'occasion de beaucoup plus faire de partie éducative sur toute la problématique de l'environnement et de faire intervenir des scientifiques pour qu'ils montrent les conséquences dans le métavers en fait de nos actions négatives sur l'environnement. Donc c'était assez voilà, je pense qu'on l'attendait pas forcément là, mais il a pour lui ce serait un développement potentiel très intéressant du métavers, très donc dans un cas d'usage très concret pour qu'on transforme Davos en espèce de forum citoyen si vous voulez toute l'année où on pourrait évoquer des problématiques et des groupes puissent se rencontrer et en parler très ouvertement sans que les gens se déplacent. Parce qu'en fait, c'est ça le...
Et qui a porté cette idée? Le patron lui-même du forum?
Oui, Schwab. Oui.
Incroyable.
Qui en fait a une conviction que c'est le futur. Parce qu'en plus, ça permet donc, du point de vue environnemental, de pouvoir se rencontrer sans se déplacer. Bon, alors, il faudra quand même aussi lui dire que le métavers, ça consomme un peu d'électricité. Mais néanmoins, et donc, avec le métavers, si on prolonge l'idée du métavers, les cryptos seraient toujours, évidemment, font partie intégrante du métavers si jamais ça devait se développer.
Mais vous disiez au tout début, quand même, les cryptos, elles ne sont pas en odeur de sainteté dans un forum économique comme Davos. Le sujet a été évacué ou il a été vraiment creusé?
Non, il n'a pas été évoqué. Le métavers a été évoqué et donc on n'a pas fermé.
Mais les cryptos évacuées
Disons qu'elles ne sont pas évacuées totalement parce qu'ils sont conscients qu'elles vont aussi avec le développement du métavers, puisque voilà, c'est en cohérence avec un développement du métavers. Mais on ne les a pas évoquées en tant que tel comme porteur de projets positifs. C'est le métavers en fait qui a été plus mis au centre du regard positif en fait de toutes ces technologies Web3.
On peut imaginer qu'en face l'écosystème le leur rend bien dans le sens où une partie de l'écosystème est anti-système et que le forum économique de Davos, voilà, c'est le système. Heureusement qu'ils s'occupent pas de nous et des cryptos parce que
complètement.
On est là pour apporter une alternative à Davos justement.
Quelque part, c'est tout à fait. Il n'y a pas d'attente particulière.
Dans ce nouveau monde qui tente de se construire, de bâtir et surtout de convaincre, on a cette information du Financial Times. Alors, il ne s'agit pas de crypto-monnaie en l'occurrence, mais quand même, peut-être. Oui, voilà.
Parce qu'il y a un petit lien qui avait été fait par l'actuel ministre brésilien des Finances.
Tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, vous qui nous suivez en direct. L'Argentine et le Brésil réfléchissent à bâtir une monnaie commune qui pourrait ensuite devenir commune à l'ensemble de l'Amérique latine.
Tout à fait. Bon, effectivement, on ne s'y attendait pas. Alors, même si c'est quand même pas quelque chose de nouveau totalement, vu que ces discussions ont déjà eu lieu, ce sont pas nouvelles, parce qu'il y a le Mercosur, ça fait écho à la zone monétaire européenne, pourquoi pas eux, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Le Brésil a toujours montré une certaine réticence à cette idée, à juste titre. Pourquoi? Parce que son voisin, en termes de stabilité monétaire, a pas non plus brillé, si vous voulez.
Donc, il y a eu
beaucoup d'épisodes, de tentatives. On a eu un bord de monétaire. On a eu deux défauts en 20 ans, là, les derniers. Mais il y en a eu plein d'autres. Enfin, c'est une histoire de répétition de défauts.
Qui voudrait, à travers une monnaie commune, s'exposer aux difficultés argentines.
Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très surprenant que ça arrive en plein, maintenant, parce qu'on est quand même que 2 ans après le dernier défaut de l'Argentine, on se dit mais quelle mouche les a piqués, et surtout pourquoi le Brésil a l'air ouvert. Alors effectivement, on le met sur le compte que pour cette fois-ci, ils sont tous les deux sont de gauche, donc une espèce de projet un peu alternatif. On va défendre un projet commun. Bon, effectivement, je m'attendais pas à une telle nouvelle, parce que c'est vrai que si vous voulez, par rapport à nous, à la construction monétaire européenne, on l'a quand même fait dans un contexte où justement la stabilité est ce qui primait, c'est-à-dire que pour accéder à l'euro, il faut absolument être stable, à la fois dans sa conduite de gestion monétaire, mais dans son taux de change. Donc là, on se dit, oulala, avec une Argentine qui n'est pas du tout, qui n'a plus accès aux financements internationaux, c'est quand même très bizarre. Mais bon, et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas complètement sans lien avec les cryptos, puisque l'actuel ministre des Finances, Fernando Haddad, avait évoqué dans un article, il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a un an, l'idée d'avoir une monnaie commune digitale. Voilà. Donc, il avait, c'était plutôt, il était allé sur l'idée, donc toujours la monnaie commune, mais tout de suite en version digitale. Donc ça évoque le sujet des monnaies banques centrales digitales.
Alors on verra si cette devise commune voit vraiment le jour ou si ça reste une réflexion. On rappelle néanmoins que Lula, le nouveau président brésilien, est en visite aujourd'hui en Argentine.
Oui, voilà. Tout à fait. Et normalement, ils doivent en parler.
Exactement. Et c'est son premier déplacement officiel à l'étranger. Mais on peut imaginer qu'aujourd'hui, l'euro est né il y a une grosse vingtaine d'années, alors que l'ère numérique n'avait pas véritablement complètement démarré, alors que les blockchains, ça restait un sujet encore plus miniature et confidentiel qu'aujourd'hui. Est-ce que lancer une devise commune aujourd'hui serait beaucoup plus simple et rapide que ça n'a été pour l'euro il y a une grosse vingtaine d'années?
On va dire que peut-être dans les coûts opérationnels, ou peut-être qu'effectivement une version digitale est plus simple, mais par contre, ça n'enlève pas les raisons, enfin le côté technique, en tout cas les
juridiques et les exigences économiques.
Et les exigences économiques, et c'est là où, là, il y a un sacré travail avant qu'on en arrive là. Je ne suis pas très optimiste sur le projet, mais bon, voilà, je ne devrais pas faire un barabajois non plus en ce début d'année.
Merci d'être passé nous voir. Et cette newsletter BFM Crypto également tout à l'heure à 18h comme chaque lundi. Nathalie Janson pour la Neoma Business School, professeure associée. Merci d'être passé nous voir. Vous étiez à Rouen il y a quelques heures encore. Vous êtes rapidement revenu à Paris. Et on vous retrouvera tout à l'heure avec Guillaume Paul aussi.
C'est ça.
Alors, Good Evening Business. Pauline, Good Evening Business démarre à 18h. Et donc à 18h aussi votre newsletter. Et cette interview d'Éric Larchevêque à découvrir tout à l'heure. Pauline Armandet. Merci Pauline. Chaque lundi à nos côtés. Vincent Bois nous accompagnait aussi pour IG. On vous rappelle le Bitcoin, toujours costaud là, qui préserve l'essentiel de ses gains du début d'année. Plus de 22 827 $ même en ce moment pour le Bitcoin. L'Ether de son côté vaut 1 620 $. Dans un instant, les marchés traditionnels. On va revenir sur la séance du jour et sur le CAC 40 qui progresse en ce début de semaine. On gagne 0,1% à la Bourse de Paris. Ce sera juste après la pause. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.